on peut passer à la discussion.
Le gouvernement a délégué ses actions à quoi?
Comment?
Le gouvernement a délégué ses actions à quoi?
J'entends pas bien la question. Vous
pouvez répéter là-dedans. Le roman noir a délégué ses réactions à quoi? Pourquoi il est le roman noir a délégué?
Ah, ce n'était pas forcément une réaction. C'est une forme de popularisation de la littérature. C'est-à-dire, à un moment donné, ça a correspondu à une diffusion, disons, large, sous la forme de livres pas chers, de petits livres pas chers, et qui devaient donc, alors qui pouvaient être au début par épisode, etc., qui pouvaient se vendre facilement, qui pouvaient se lire facilement, etc. Donc il y a une sorte de popularisation de la littérature avec une forme, disons, plus courte, plus abrupte, avec un style un peu plus direct. Un de ceux qui commence ça, c'est, disons, il y a des éléments avant, mais celui qui est le plus marquant, parce que on sent que c'est pas simplement ce qu'on peut appeler la littérature de gare, mais que c'est de la littérature qui pose des problèmes essentiels, c'est Dachiel Hammett. Le premier texte de Dachiel Hammett date de 1929. Et Dachiel Hammett est un personnage intéressant parce que avant il était détective à l'agence Pinkerton aux États-Unis. Il a notamment été détective, il a dû briser en tant qu'agent de Pinkerton des grèves, etc. Et ensuite il est devenu militant du Parti communiste américain. D'ailleurs, il a été pas mal inquiété au moment de la chasse aux sorcières dans les années 50. Un petit livre vient de sortir d'ailleurs de ses auditions par la police américaine au moment de la chasse aux sorcières. Il y a une façon de travailler des questions de la littérature, mais dans un style beaucoup plus direct, vers un public plus populaire, et en se confrontant directement à des questions sociales et politiques de l'époque.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret contemporain de la manière dont pourrait être gérée la dimension tragique et utopique de l'existence?
Ça, je ne sais pas, mais le mot gérer est difficile parce que ça suppose, c'est la connotation d'un type de vocabulaire qui
appréhender, étudier, changer.
La question, c'est d'admettre la tension. Et donc, d'admettre d'une certaine façon les deux possibilités, et que la dimension utopique, c'est-à-dire les lendemains qui chantent, ne viennent pas trop entamer la lucidité par rapport à ce qui nous échappe. Or, une des tentations fortes, je pense par exemple en politique, c'est de se raconter des histoires. C'est se raconter des histoires. En général, c'est des belles histoires sur soi et des mauvaises histoires sur les autres, les adversaires, les concurrents, etc. Et il y avait, dans son autobiographie, après qu'il soit sorti de l'hôpital psychiatrique, Althusser définit ainsi le matérialisme. Il dit le matérialisme, c'est ne pas se raconter d'histoire. C'est bizarre comme définition, il n'y a pas matière dedans dans la définition du matérialisme. Ne pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire avoir une certaine lucidité qui suppose de ne pas rajouter sans arrêt des illusions, mais essayer de se confronter clairement à ce qui nous échappe, aux dynamiques qui nous broient, etc. Et ça, c'est, à mon avis, c'est très difficile. Et la plus grande la plus grande capacité, c'est de se raconter des contes de Noël. Prenez, par exemple, voyons des choses qui ont des échos positifs en nous, bon. Qui ont eu certains échos positifs, bon. et qui répondent mal à cette question. Bon. Deux types de productions intellectuelles qui sont un peu à la mode aujourd'hui, qui ont un certain succès. Bon. En vrai, premier exemple, le philosophe Alain Badiou, bon, qui a eu un certain succès depuis son livre sur Sarkozy. Il vient de sortir un livre qui s'appelle L'hypothèse communiste. Il y a eu un certain écho aussi. Il est passé plusieurs fois à la télé, à la radio, il y a eu plusieurs pages dans Libération, etc. Autour de ce livre. Que nous dit Alain Badiou? Il nous dit le totalitarisme, ça n'existe pas. C'est une invention des libéraux. Il nous dit les trois premières années de la révolution culturelle chinoise, c'était vachement bien. Et il fait l'apologie du culte de la personnalité de Mao Tse-tung à l'époque. Voilà. Il y a des millions de morts qui sont entachés de la question du communisme et du socialisme au XXe siècle. Et que nous dit Alain Badiou pour relancer l'hypothèse communiste? Rien ne s'est passé. C'est sympa, recommençons comme avant. C'est terrifiant. Et ça, c'est. Et Alain Badiou a du succès. Alors évidemment, il a du succès parce qu'il dit du mal de Sarkozy, donc, etc. Mais pas seulement, parce que dire des choses comme ça, ça plaît. Bon, ça fonctionne, Alain Badiou. Mais prenons un autre exemple qui a marché là dans un public plus jeune, qui est l'insurrection qui vient du comité invisible, attribué à Julien Poupin. Que nous dit Soleil? Il nous dit différentes choses, pas très cohérentes. Mais c'est un grand succès, hein, surtout depuis l'affaire Poupin. C'est-à-dire que avant le livre, c'était pas tellement diffusé, mais après l'affaire Poupin, il est rentré dans la liste des best-sellers de l'Express. Alors bon, donc on est à 150 000, 200 000 exemplaires vendus, en sachant que le livre est accessible gratuitement sur le site de l'éditeur. Donc il s'est quand même vendu. Donc succès. Alors que nous dit ce livre? Il nous dit des choses, il nous dit, il commence sur les émeutes de novembre de 2005, et il nous dit, voilà, c'est ça le sens politique des émeutes de 2005, une révolte contre la société capitaliste, etc. Il fait une chose qu'on fait souvent à gauche, il parle à la place des autres, il ne va pas interroger les émeutiers pour savoir ce qu'ils voulaient faire quand ils faisaient les émeutes. Est-ce qu'il y a peut-être d'ailleurs plusieurs sens qu'ils donnaient à ce qu'ils faisaient, clair ou pas, il y en avait plusieurs? Non, il parle à la place des gens, il leur dit le sens de ce qu'ils font. Bon, avant, on appelait ça l'avant-garde léniniste. Et on croyait qu'on en avait fini avec ces conneries. Mais non. Alors il dit ça dans un premier temps du livre. Il dit ça, c'est un livre collectif. Et puis à un autre moment, il nous explique tous ces ouvriers qui sont abrutis, ces gens sont tous venus bourgeois, etc. Tous ces gens qui sont aliénés. Bon. Alors c'est la thèse de tous ces gens sont aliénés, abrutis, etc. Bon. Donc il n'y a pas grand chose à faire à nos futurs, parce que si tout le monde est abruti, on ne voit pas comment on peut en sortir. Bon. Sauf miracle, il y a ceux qui écrivent l'insurrection qui vient. C'est toujours pareil, c'est même comme ça avec les léninistes aussi. C'est les ouvriers sont dans l'idéologie bourgeoise, etc., etc. Mais quand même, il y a l'avant-garde qui, lui, elle, ne l'est pas. Bon, on ne sait pas, c'est un miracle, sans doute. Mais elle ne l'est pas et elle va montrer à ceux qui sont abrutis comment ne pas être abrutis. Bon. Donc, deuxième élément, ce miracle, tous les gens sont aliénés, etc. Ce qui, d'ailleurs, ne nous met pas bien en prise avec les ambivalences du monde, hein, parce que là, c'est un jugement unilatéral, c'est aligné complètement, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses contre, mais c'est dans disons, l'écriture situationniste ou post-situationniste, contre attaque, contre la décroissance, etc., pour montrer que tous ces trucs-là, c'est encore des ruses de l'aliénation capitaliste. Bon. Et puis, troisièmement, à la fin, ça finit sur vive les communes, etc., et l'émancipation pour tous. Alors là, ça, c'est l'émancipation. Mais on ne sait pas comment on y arrive. Là, c'est plutôt, voilà, demain, on rase gratis. Il n'y a pas de problème. L'émancipation, ça n'a pas de problème. Alors, les trois énoncés sont contradictoires. Hein. C'est pas cohérent comme livre. Mais les trois fils qui sont contradictoires et qui ne sont pas cohérents, les trois nous font régresser. D'une certaine façon, nous plaisent. Nous font régresser, nous plaisent. Comme Badiou, mais dans un sens différent. Ça participe du succès de ça. Bon. Voilà des exemples de choses qui nous plaisent et qui nous maintiennent non pas dans une pensée de la tension entre le tragique et l'utopique, mais qui soit nous raconte des belles histoires utopiques en ne tenant pas compte des désenchantements du tragique, etc. Soit font rebasculer le jugement sur un jugement uniquement tragique, où je suis une sorte de esthète spectateur du désenchantement, du non-sens du monde, de l'extérieur, et je vois tous ces abrutis qui sont dans le désenchantement, etc. Et il me semble qu'on peut quand même sortir de ça. Voilà. On a des ressources pour sortir de ça, mais pourtant, ce qui marche toujours, ce qui marche, et là je prends pas ce qui marche à une échelle chez les gens qui sont dans des visions conservatrices, etc. Ce qui marche chez nous, les gens de gauche, et en plus les gauches critiques. Bon. Ce qui marche chez nous, c'est le plus débile, c'est le plus régressif, spontanément. Sans avoir le sens de cette tension. Voilà, il me semble, pour moi, comment... Et c'est moins une question de recette pratique que de rapport au monde, je veux dire, je pense.
Vous avez mentionné Bourdieu, mais vous ne l'avez pas évoqué.
Si, je l'ai évoqué juste un moment, parce qu'il me semble que la figure de voilà, autour de la causalité du probable. Chez Boudis, il y a cette idée qu'on trouve chez Bourdieu, notamment dans ses études, disons, du système scolaire, c'est que, à partir du moment, les contraintes sociales, c'est une question de probabilité statistique, c'est-à-dire, le sociologue peut expliquer que, quand on est issu d'une famille populaire, on a peu de chances d'avoir une réussite, disons, dans les grandes écoles. Ça, il y a une probabilité statistique faible. Mais c'est une probabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens issus des classes populaires qui réussissent dans les grandes écoles. Donc c'est une probabilité statistique. Ce que nous dit Bourdieu avec la causalité du probable, et qui est bien incarné par le personnage du bouddhiste, c'est que si je suis persuadé que je ne peux pas réussir à cause de mon origine sociale, ça renforce la probabilité que je ne réussisse pas. Donc c'est que ça rajoute une force subjective aux mécanismes sociaux qui me rendent difficile la réussite.
La semaine dernière, vous avez dit que pour les romans noirs, vous aviez parlé des romans de Denis Lehan. Puis finalement, non, c'est pas lui que vous avez choisi.
Oui, parce que j'ai dû faire un tri, en fait.
C'est un auteur contemporain qui est très désespéré, désenchanté.
J'ai fait un tri, et donc, en fait, si j'avais traité de Lehan, ça aurait été trop. Donc je l'ai enlevé, en fait, en cours de route. Mais je peux en parler un peu. On retrouve des caractéristiques, hein, c'est sans doute le plus jeune de l'histoire, parce que c'est quelqu'un qui a dû naître, disons, dans les années 60. Donc il est connu pour une série de romans où il y a deux détectives, un homme et une femme, qui a donné d'ailleurs lieu à une adaptation il y a 2 ans au cinéma Gone Baby Gone. Et il y en a toute une série comme ça qui sont très intéressantes. Un dernier verre avant la guerre, c'est comme ça. Et puis c'est lui qui est l'auteur, en dehors de cette série de Mystic River, qui a été, disons, adapté par Clint Eastwood. Et là, avec une dimension plus psychiatrique et fantastique, Scorsese a adapté un film qui va sortir prochainement, qui est Shutter Island. Et il a entamé une série là, qui commence dans les années 20, je cherche le titre premier, mais une série de romans, de polars historiques en fait, où il reconstitue à partir de la ville de Boston, puisque il parle de Boston, il reconstitue, disons, l'histoire des États-Unis. Et là, dans le premier qui est sorti à peu près il y a deux ans, un an et demi, c'est les années 20 et c'est notamment les débuts des mouvements ouvriers socialistes, etc.
Un pays à l'aube.
Voilà, un pays à l'aube. Donc il va y avoir toute une série comme ça. Il a entamé une série pour reconstituer l'histoire des États-Unis à travers à la fois des dimensions policières mais aussi une histoire sociale et politique. Donc voilà, c'est quelqu'un d'intéressant de ce point de vue parce qu'on y trouve la critique sociale et politique et on y trouve la question du désenchantement. Et on trouve aussi la possibilité de, le peut-être, la possibilité de trouver un fil qui n'est pas, disons, qui n'est pas l'ordre des absolus religieux, mais qui n'est pas non plus de l'ordre du vide nihiliste. Donc là, il y a ici un auteur qui s'inscrit complètement dans cette tradition.
Est-ce que le roman noir américain, qui s'inspire forcément du XXe siècle américain, est-ce que ça reflète la vie et le développement économique ou capitalistique des États-Unis? Et est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que les auteurs américains sont précurseurs par rapport à la pensée européenne?
C'est-à-dire que ça traduit dans le style du roman noir des choses de la transformation de la société. Notamment, disons, je ne l'ai pas complètement souligné parce que c'est un aspect que je n'ai pas développé là, mais dans la logique du désenchantement, il y a la logique de domination de l'argent. C'est-à-dire, de peu à peu, que l'ensemble des rapports humains sont, disons, pas sous le filtre de l'argent. Donc ça, c'est un élément fort qui se heurte à des résistances dans le roman noir à travers la figure de l'amour, de l'amitié, des formes de confiance entre les personnes qui résistent à ça de cette façon. Donc on voit à la fois le pouvoir désagrégateur de l'argent, mais aussi des formes de résistance par rapport à ce pouvoir désagrégateur. Donc en plein, disons, développement du capitalisme. Après, dans les années, quand le roman noir prend son essor dans les années 30, c'est très net chez les bouddhistes, il y a aussi l'expérience de la crise de 29, donc de la misère, qui joue un rôle important dans ce roman. Et même dans les romans de Gaudis après des années 50, on voit des choses qui ressemblent, disons, à l'expérience de la crise de 29, plus qu'aux années 50, en fait, quand il écrit. Donc, il écrit dans les années 50, mais c'est en fait aussi un effet de cette période. Donc, on a, disons, une traduction dans le genre policier avec l'invention de la figure du détective. Bon, il y a le policier, mais le plus important dans le roman noir américain, c'est le détective, sans doute, comme figure. Et dans la figure du détective chez Hammett et après chez Chandler, on a le début de cette sorte d'éthique du maintien de soi. C'est-à-dire que le détective, il n'est pas religieux. Il n'est pas complètement un nihiliste, même s'il a une vision très lucide et très critique de ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas de morale affichée au sens d'un moralisme, et pourtant il se tient. Par exemple, même quand il est confronté aux riches, etc., il se tient, c'est-à-dire il fait son boulot. Même d'une certaine façon, quand ça va à l'encontre de son intérêt, il fait son boulot. C'est-à-dire, il maintient une sorte, c'est une éthique du maintien de soi, qui, d'une certaine certaine façon, et qui n'exhibe jamais une morale. C'est-à-dire, c'est pas la morale au sens kantien, où on exhibe des questions morales. C'est une morale plus proche de Lévinas ou de Wittgenstein, c'est-à-dire une morale, on peut dire, incorporée, pratique. C'est un, Pourquoi je dis ça, c'est parce que il n'y a jamais de justification morale dans les actes faits, et pourtant on sent bien qu'il y a une tonalité morale, éthique, de maintien face à la désagrégation du monde. Mais il n'y a pas une besoin d'afficher sa belle âme. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi, des tonnes. Bon. C'est une conception de la morale qu'on trouve dans un des premiers textes de Wittgenstein, le Tractatus Logico-Philosophicus, où il termine ce dont on ne peut parler, il faut le taire. C'est-à-dire cette idée que l'éthique n'est pas avant tout quelque chose qui se théorise, mais qui se vit. Un peu, on voit ça très bien, ça, je pense, il y a un passage d'un western, et cette mercenaire de John Sturges, où le personnage de Steve McQueen, dans les sept mercenaires, incarne bien ça. C'est-à-dire, alors Steve McQueen est un personnage dans ces sept mercenaires qui ont été embauchés par des paysans mexicains pour les protéger d'un salaud qui les rançonne. Et en plus, c'est tous des gens très compétents dans leur métier, qui se font généralement payer cher pour tuer des gens, etc. Et puis, tous les sept, ils se font embaucher par des gens qui n'ont quasiment pas d'argent, etc. Et à un moment donné, ils se font attraper à un moment donné du film, ils s'en sortiront. Le chef des bandits mexicains leur demande, mais vous, des gens si honorables, si forts, etc., pourquoi vous travaillez pour des ploucs comme ça? Bon. Alors, il fonctionne beaucoup, Steve McQueen, par petits contes, par petites histoires. Alors il dit, ça me rappelle une histoire. J'avais un ami comme ça, à un moment donné, il s'est mis nu, il a été se mettre sur un cactus. Alors on lui demande, mais pourquoi vous avez fait ça? Il répond, l'idée m'en est venue. Et c'est la seule anecdote qui répond, parce que personne ne répond jamais, pourquoi vous faites ça? C'est la seule anecdote qui est indiquée, c'est la seule métaphore qui est indiquée pour dire pourquoi ces gens supposés immoraux font cet acte éthique, alors que sans arrêt on leur demande pourquoi vous faites ça, etc. Sauf un dans la bande qui croit qu'il y a un trésor, et à la fin, quand il meurt, ils lui disent oui, il y avait un trésor pour pas qu'il meure un peu désenchanté. Ils disent oui, il y a un trésor. Autrement, bon, les autres savent bien qu'il n'y a rien. Bon, l'idée m'en est venue, voilà. Et donc, il y a cette idée de. Et dans le roman noir américain, il y a, dans le personnage du détective, il y a cette idée de l'éthique comme une forme de maintien pratique qui n'a pas besoin d'exhiber, disons, sa belle âme. C'est pas BHL.
Est-ce que la littérature du livre, le personnage de Peter Malo de Montalban, peut se rapprocher de l'effectif de retard?
On n'a pas entendu fort.
J'ai répondu. Est-ce que dans la littérature plus proche de nous, le personnage de Pepe Carvalho dans Montalban se rapproche de ce type de détective?
Il faut réfléchir un peu. Il y a un contexte un peu différent. C'est pas le même genre littéraire. C'est-à-dire, bon, on a cette question que on est dans le cadre espagnol, catalan. Et donc le, Le détective n'est pas exactement le même, même s'il est, il est un peu décalé par rapport à la figure du détective américain. Et donc, il y a tout le travail pour... travailler, disons, la dimension de la convivialité à travers la nourriture, etc. Alors que, normalement, le détective américain est seul. En général, il finit seul, etc. Donc, il y a un problème de leur rapport à la solitude. Bon. Parce que là, il y a un rapport à la convivialité. Mais autrement, si on enlève cet aspect, disons, de l'écriture, il y a effectivement à la fois une vision assez noire de ce qui se passe dans l'Espagne. D'abord, dans les tout premiers, c'est encore disons, l'Espagne franquiste, je crois, et puis l'Espagne surtout post-franquiste. À travers une expérience particulière, puisque Montalban lui-même était un ancien militant communiste, donc ça aussi, ça marque, disons, ça déclenche des choses. Donc il y a ce désenchantement, il y a le fait de ne pas repartir comme avant sous la forme de l'utopie politique communiste au sens classique, donc de tenir compte des éléments du passé et de maintenir la possibilité d'une sorte de fil d'équilibriste. Bon. Donc là, oui, ça, on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme ça. Disons, en dehors de cette dimension, la dimension, disons, de la culture méditerranéenne, conviviale, etc., qui correspond moins, disons, à cette solitude, disons, du détective américain.
Justement, sur cette question de la solitude, et puis pour revenir aussi à nos thèmes de réflexion privilégiés, c'est-à-dire l'individu et le collectif aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation que vous avez faite, et je crois que je viens même de comprendre peut-être un petit peu pourquoi j'aime tant le polar américain, sur ces personnages désenchantés et utopistes, ou ces utopistes désenchantés, je ne sais pas trop, mais ça ramène à une certaine solitude des personnages et des individus. C'est difficile de faire du collectif avec du désenchantement, justement. C'était peut-être plus facile de faire du collectif avec justement une utopie, une croyance en utopie.
Oui, alors il y a la trame narrative du roman noir, où là il y a la question de l'anti-héros, donc qui est solitaire, et la question du collectif n'est pas centrale, elle redevient centrale par exemple, mais l'écriture change complètement dans le dernier Léane avec un bébé à l'eau, justement, parce que là il y a le lien avec les luttes sociales et politiques de l'époque, et donc on s'est réinséré dans du collectif. On n'a plus la figure du détective au sens classique. Donc il y a le point de la figure narrative, disons, du détective, etc., et de la solitude qui est mise en scène dans ces romans. Et après, il y a la façon dont on peut le traiter, nous. C'est-à-dire, le désenchantement est lié, disons, à la dimension de solitude. Alors après, est-ce qu'on peut faire du collectif avec du désenchantement? Pas... Je pense qu'on peut faire... sans doute du collectif, enfin c'est mon pari, on peut faire du collectif plus solide à terme, un peu plus stable, mais moins, disons, activiste sur le court terme, si le collectif est travaillé par la tension entre utopie et désenchantement. C'est-à-dire que l'activisme, les lendemains qui chantent, l'optimisme BA, ça produit une énergie, disons, individuelle et collective sur le court terme. Mais ça retombe souvent assez vite. Bon. Moi, disons, c'est un long... Moi qui ai toujours appartenu à des organisations politiques, syndicales, etc., depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait longtemps, j'ai eu énormément passé de gens qui sont dans une phase d'ascension, disons, hyper activistes, etc., d'ailleurs très culpabilisateurs vis-à-vis des autres qui sont, etc. Et puis après, ça retombe, voilà. J'en ai vu énormément tomber, quand même, ces années. et disparaître un peu dans la nature, donc disparaître pour le collectif. Donc je ne suis pas sûr que sur le, disons, le long parcours, la vision hyper optimiste est la meilleure. Tandis que l'apprentissage de la lucidité, l'apprentissage des écueils, le souvenir des échecs, les souvenirs des blessures passées, etc., peut-être conduire des collectifs à se stabiliser plus nettement. Ne serait-ce que parce que à un niveau tout simplement de la relation interpersonnelle, on sait que si on ne projette pas de manière idéologique, si on n'oublie pas toute notre expérience c'est que les humains se font mal les uns aux autres, les plus proches. Si dès qu'on parle politique, on ne dit pas non, les humains ils se font jamais mal, c'est les méchants capitalistes qui font mal, etc. C'est les salauds, c'est les trucs, etc. Mais nous on s'aime, etc. On est tous unis, etc. Bon, si on, en parlant politique, on oublie complètement notre expérience, c'est ce qu'on fait en général. On oublie complètement notre expérience. Le fait qu'on se fait mal. Et si on n'oublie pas qu'on se fait mal, peut-être qu'on va avoir des collectifs où on sait qu'on va se faire mal, etc., qui vont tenir un peu plus, qui vont tenir compte de ça, etc. Donc, je ne suis pas sûr que, disons, le tous en avant, tous unis, les lendemains qui chantent en avant, tout ira bien, et il n'y a que nos adversaires qui nous empêchent d'avancer. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur truc. Pour même faire du collectif qui dure un peu pour avec l'idée qu'on pourrait transformer des choses, disons avoir des effets sur la réalité, etc. Je ne suis pas sûr donc ça produit l'oubli de l'expérience du désenchantement, ça produit une forme d'effervescence et d'activisme très momentané. Ça c'est simple. D'abord c'est parce qu'il a dit Sarkozy est méchant. Bon là, évidemment c'est des gens il a fait le premier livre contre Sarkozy, donc déjà. C'est le premier à avoir dit Sarkozy c'est méchant. Et il nous dit pas de problème, on peut relancer l'hypothèse communiste. Sans problème. Bon.
Mais il oublie le désenchantement communiste.
Oui, il oublie. Ah oui, complètement. Mais pour lui, il n'y a pas de désenchantement, parce que. Le désenchantement, c'est une invention des adversaires. C'est les libéraux, etc., qui veulent nous faire croire qu'il y a eu des problèmes, mais en fait, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Bon. Donc, c'est pour ça que ça marche. Il y a quelqu'un qui nous dit, on oublie qu'il y a eu des problèmes, on repart comme en 14. Évidemment, spontanément, ça marche. Voilà. Spontanément, ça marche. Enfin, ça marche une série de gens. Bon. Ça marche pas chez ceux qui sont désenchantés, mais on pourrait dire que ça marche chez ceux qui voudraient quand même continuer à faire quelque chose. Parce qu'en fait, souvent, ils ont le choix entre deux possibilités. Soit le désenchantement total, soit on repart comme avant. Alors moi, ce que j'essaie d'indiquer, c'est qu'il y a une autre possibilité.
Je te suis assez bien là sur le motif de la tension, tragique, tout ça, et la façon philosophique dont tu le présentes. Mais là, je ne vois pas en quoi il y a une spiritualité qui s'en dégage, qui en découvre, qui se profile à partir. On reste dans la philosophie, un thème par ailleurs. On trouve dans l'histoire avec d'autres termes, le dépassement de cette tension, je comprends que tu aies peur, parce que tu présentes toujours le dépassement hégélien comme le seul dépassement possible d'une polarité, d'une
sentiments. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Et dans les alternatives, est-ce que c'est là que tu dégagerais quelque chose que tu as fait une spiritualité non religieuse ou là?
Oui, alors, j'en parlerai la semaine prochaine, mais le spiritualité, pour moi, c'est une certaine approche de ce qu'on peut appeler spiritualité. C'est la façon de traiter la question du sens de mon existence à un niveau individuel et du sens, disons, de l'existence des sociétés humaines à un niveau collectif. Voilà, c'est pour moi, c'est ça, spiritualité. Donc c'est pour ça que ça peut tout à fait être non religieux. Il n'y a pas besoin ni de Dieu, ni de choses. Et donc, mon problème, c'est comment traiter cette question du sens à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Il y a une façon de traiter cette question du sens qui est religieuse en disant le déléguant ou en l'englobant dans des catégories transcendantes qui renvoient à des dieux. Des formes, disons, de dieux. On peut dire que d'une certaine façon, certains usages du communisme, etc., ont été des quasi-absolus religieux, mais laïcisés, mais que ça ressemblait un peu. Et puis, il y a une façon nihiliste, en disant, une façon relativiste, en disant, rien de nouveau a priori, il y a un non-sens, donc il y a deux solutions face à cette constat, soit on plonge dans le vide, il y a une sorte de nihilisme éthique assurant, soit profitons-en, parce que de toute façon il n'y a rien d'autre que profiter au jour le jour. Et alors moi il me semble qu'il y a, à travers la figure de la tension entre le tragique et l'utopique, l'idée du peut-être, la notion d'instant d'éternité, il y a l'idée de donner un sens fragile à mon existence à un niveau individuel et collectif qui n'est ni l'un ni l'autre et qui suppose qui ne passe pas par un dépassement parce qu'il refuse le dépassement parce que ce n'est pas dépassable parce que l'antinomie, comme dirait Proudhon, est infinie et donc qui se confronte à cette antinomie. C'est ça, voilà. Alors, et c'est pas une réponse donc en termes de substantiel, en termes de contenu, on pourrait dire que c'est une sorte de réponse méthodologique. C'est une réponse méthodologique à la question de la spiritualité. Voilà. Mais pas en termes de contenu en disant, mais alors, je vais donner tel ou tel contenu. Alors moi, je peux donner des contenus politiques, éthiques, etc. Ces choses, mais je pense qu'on peut y mettre différents contenus. Mais c'est un traitement méthodologique de comment on pourrait dessiner une spiritualité non religieuse, c'est-à-dire traiter cette question du sens à niveau individuel et collectif de manière différente de ceux qui sont du côté des absolus ou du nihilisme.
Mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est assez surprenant, ça fait penser à Kierkegaard. Alors on va dire chez Kierkegaard, il y a un dieu, mais en fait, il est tellement, tellement inaccessible que la manière dont il pose la question reste très, très, très originale. Et bon, je pense à Kierkegaard, père de l'existentialisme, la philosophie existentielle qui pose la question du sens, etc. Et justement, Kierkegaard, il fait une critique de Hegel, en disant la contradiction n'est pas dépassable. On est dans la tension, on est dans la disjonction. Exister, c'est justement rester dans la disjonction. Et dans ce qu'il appelle un ou bien ou bien. Et bon, et à partir de là, chez Kierkegaard, il y a justement toute une analyse de l'angoisse qui est finalement le vertige de l'impossible. Mais je trouve qu'il y a vraiment des liens très forts avec ce que tu viens de développer sur justement cette tension non dépassable et qui est celle de l'individu pris dans l'existence qui doit justement rester dans cette tension et dans le devenir Et justement, il critique à la fois les prêtres qui font croire, les pasteurs qui font croire à leurs ouailles, qui vont trouver un lieu de repos dans l'église, hein, alors que quand on met son pied dans la maison de Dieu, il faut prendre garde parce qu'on risque justement de pas du tout y trouver le repos. Et il critique également le hégélianisme, justement, qui fait croire à une réconciliation possible, alors qu'il y a un affreux et large fossé entre les deux bords de ce qu'il appelle la déchirure. Enfin, c'est juste une piste. Je trouvais ça frappant comme rapprochement.
Non, moi, en fait, je ne connais pas un cœur de guerre. Donc, tel que tu l'indiques là, c'est effectivement, c'est une proximité. C'est-à-dire que, en fait, dans la tradition, disons, existentialiste, celui qui m'a le plus marqué, c'est Merleau-Ponty, plus que Sartre, parce qu'il fait une critique de Sartre à un moment donné qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un risque de fétichisation de la, une sorte de conscience souveraine chez Sartre qui échapperait, disons, la prégnance à la fois du corps et de l'histoire, parce que le corps c'est l'histoire en même temps. Donc, le fait que nous ne sommes pas simplement des consciences, nous sommes des corps, nous sommes premières, avant tout des corps, même, disons que l'élaboration, disons, rationnelle de la conscience est une dimension seconde. Que ce corps est travaillé aussi par l'intersubjectivité, donc les relations avec les autres et l'histoire, et pas comme quelque chose de séparé. Donc ça m'a fortement marqué chez Merleau-Ponty, à partir de là, la façon dont il pense, alors là, notamment la politique, dans l'ambiguïté, l'ambivalence, qui était mal vue d'une certaine façon. L'idée qu'on dise qu'il y a ambiguïté, il y a ambivalence, évidemment, c'est mal vu. Bon. Parce qu'il faut choisir. Donc, et c'est pour ça que là il y a la possibilité que, il me semble, en politique, une des possibilités que permet Merleau-Ponty, c'est l'idée que la politique serait un pari raisonné dans une situation d'incertitude, et un pari raisonné qui accepte toujours que des choses lui échappent. Ce qui fait que, par exemple, c'est voilà une façon de ne pas se raconter des histoires. Quand on fait ces genres de paris raisonnés, par exemple, on a l'habitude, par exemple, ces histoires qui encombrent beaucoup, les esprits souvent d'élection, alors on fait alliance avec un tel ou avec un tel. Ça occupe beaucoup les esprits, les discussions, ces histoires d'élection. Selon une vision merleau-pontienne, je vais agir dans une histoire en partie incertaine à partir des limitations de mon corps et de mon histoire, mais en essayant d'avoir une forme raisonnée, en disant ben, probablement si je fais ça, et ben, il va arriver ça. Il n'y arrive pas nécessairement ça, en général, il n'arrive pas ça. Et donc, ben, un tel va dire ben, il faut faire telle alliance électorale, un tel va dire il faut faire telle alliance électorale. Deux personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes orientations, etc., peuvent faire des paris complètement opposés. Complètement opposés. À un moment donné. Et pourtant, ils sont très proches. Mais que dans la situation, c'est nécessairement qu'ils fassent un pari opposé. Par exemple, en 68, je peux dire, je fais le pari de l'extrême gauche, ou après 68, où je fais pari du programme commun entre le PS et le PS. Voilà, deux paris qui, dans la situation, sont opposés. Des gens très proches peuvent faire les paris, et pourtant, ils vont s'opposer, ils vont se confondre, ils vont être opposés. Ce qui est problématique dans la vision qu'on a habituellement des choses, c'est qu'on veut absolument que celui qui ait fait le pari raisonné différent soit un salaud et un traître, qu'il ait des intérêts tordus, qu'il ait des trucs derrière la tête, etc., que nécessairement, ça ne va pas. Alors, on peut affronter simplement l'idée que dans une situation d'incertitude, on fasse deux paris, raisonner différent. Parce que comme on ne sait pas ce qui va arriver, nécessairement, il faut faire des paris sur ce qui va se passer et on est amené à faire plusieurs hypothèses. Ben non, le fait de se raconter des histoires, c'est que ceux qui font des paris différents sont des salauds, ils sont vendus, etc. etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que cette façon de voir les choses est un vrai problème de un rapport au monde qui peut changer beaucoup de façons de se confronter à des détails les plus quotidiens. Bon, on pourrait dire que c'est dans le vocabulaire, disons, de républicain, disons, de la Troisième République, on appelait ça réforme intellectuelle et morale. Voilà. S'il y a quelque chose d'une réforme intellectuelle et morale dans une transformation de son rapport au monde par rapport à ces questions. Et il me semble que là où c'est le plus net, c'est pour ça que j'ai pris le matériau du roman policier ici, dans le roman noir américain, ça nous apprend beaucoup plus de choses que dans beaucoup de choses qui nous semblent parler de ça, mais qui n'en parlent pas, des textes politiques, la presse, etc. Là, il y a un matériau qui nous parle de ça directement. Donc il y a davantage intérêt à lire Boudis, etc., qu'à lire de beaucoup de choses qu'on lit par ailleurs.
Est-ce que l'éthique serait, d'après vous, un moyen terme entre l'utopie et le désenchantement, et la condition aussi de connaître les deux?
Ben, l'éthique, c'est peut-être une médiation où c'est à la fois, disons, c'est deux choses. C'est une façon de se tenir, mais là, qui ne relève pas simplement de la conscience de son histoire, en fait, de ses tripes, je veux dire. Où la question de l'éthique n'est pas simplement une façon de... Enfin, c'est pas des principes. Alors, on peut en tirer des principes après, on peut en tirer des principes de ce qu'on fait, mais c'est pas être en accord avec des principes, nécessairement. En fait, c'est quelque chose qui vient aussi des tripes, c'est-à-dire une façon spontanément de se tenir liée à une histoire. Aussi. Mais l'éthique, ça peut être aussi une méthodologie. Et dans ce cas-là, c'est la méthodologie dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette façon de poser le problème. Mais je pense que si ça doit avoir une effectivité, c'est que ça doit passer par le corps aussi. C'est que ça doit être passé, ça ne peut pas être simplement l'affichage de principes. Et ça doit, à partir de là, ça ne peut pas être un affichage. Donc c'est le problème des sept mercenaires. Ça peut pas être un affichage, ça peut pas être BHL, je reviens là-dessus, c'est-à-dire, ça peut pas être simplement regarder comme j'ai une belle âme. Voilà, c'est une tentation qu'on a tous, bon, regarder comme j'ai une belle âme, bon, voilà. Mais non, ça peut pas être ça. Et donc c'est se confronter aux difficultés même, se confronter aux difficultés, aux extrêmes. Quand par exemple, avoir une attitude éthique, c'est dans le déchirement, faire le contraire même d'une belle âme. C'est-à-dire, c'est dans le cas du film de Jean-Pierre Melville là, sur la résistance l'armée des ombres, c'est à la fin Ventura et les autres qui tuent Simone Signoret. Qui tue donc la personne la plus morale qui a sauvé tous les autres, et qui est la meilleure personne du groupe. Et pourtant, on doit la tuer. Pourquoi? Voilà. C'est ça l'éthique. Évidemment, avec du BHL, on n'a pas ça. On est toujours dans le bon camp, on lave toujours plus blanc, on est jaloux de se salir les mains, parce que se salir les mains et l'éthique, ça serait séparé. Mais non, des fois, il faut se salir les mains pour faire des questions éthiques, tout en n'étant pas sûr que ça soit nécessaire. Et donc, en n'étant pas sûr qu'on ne fait pas une saloperie en faisant ça.
Pour reprendre la parole, je ne comprends pas vraiment pourquoi.
pourquoi il ne pourrait pas y avoir de dépassement. Vous avez l'air de tenir. Donc, peut-être pour écrire, enfin, comprendre ce que vous entendez par dépassement, entre donc le tragique et l'utopie. Vous parlez de tension. Est-ce que la tension n'est justement pas le troisième terme entre les deux, et celui qui fait que, effectivement, l'individu, en allant de l'un à l'autre, dans cette tension-là, est toujours dans un dépassement de lui-même?
Alors, ce que je dis, c'est pas l'individu, un dépassement de lui-même, c'est-à-dire une construction de lui-même, c'est pas ça que je mets en cause, c'est l'idée, dans l'idée de dépassement, tel que ça s'est peu à peu stabilisé à travers une certaine lecture, disons, en philosophie de Hegel, qui a marqué beaucoup, disons, les imaginaires de gauche, c'est l'idée qu'à un moment donné, une contradiction n'est plus une contradiction, parce qu'elle peut être englobée dans quelque chose de supérieur qui est une sorte d'harmonie. Et donc on peut harmoniser les choses. Donc si on peut harmoniser les choses, on n'est plus dans le déchirement. Bon. En fait, à un moment donné, ça baigne. Et donc la plupart des contes de Noël nous racontent des histoires où ça baigne. Et pas le roman noir. Ça baigne parce qu'à un moment donné, on arrive où il n'y a plus de déchirement, où il n'y a plus de problème d'une certaine façon, où ça s'ajuste. Tandis que là, il s'agit de trouver un aménagement pour vivre la déchirure et la contradiction, mais sans la supprimer. Dans l'idée de dépassement, il y a l'idée de supprimer. Ouais. Alors, c'est autre chose de dire que la personne se dépasse elle-même. Ça, c'est l'idée qu'elle se construit à travers ça, et qu'elle se construit différemment. Donc nécessairement, elle est différente à travers les différents moments. Bon. Ça, c'est autour de l'idée d'un dépassement de la personne d'elle-même. C'est quelque chose de différent que l'idée de dépasser une contradiction comme celle entre le tragique et l'utopique, ou entre le solitaire et le solidaire, ou entre le commun et la singularité individuelle, etc. Là, il me semble qu'il y a des antinomies qui ne se dépassent pas. Oui, il y a un aménagement, je ne sais pas si c'est une adaptation, il n'y a jamais une
adaptation.
Voilà, une adaptation, c'est une... Moi, je dirais plus se confronter, parce que l'adaptation, ça peut être un discours fonctionnel où peu à peu, on a complètement domestiqué le problème, d'une certaine façon. On l'a fonctionnalisé, on n'a plus... Tandis que ça peut toujours nous écraser. Voilà. Sauf si on est le surhomme. Bon, mais évidemment, c'est une discussion. Je ne suis pas sûr que Rosset lui-même, ni Nietzsche n'a pas été tellement surhomme, mais Rosset ne me semble pas un surhomme. Mais c'est très important, je suis passé par Rosset aussi, bon, parce que c'est une question qui m'intéresse, mais c'est très important, comme un autre élément méthodologique, j'ai critiqué Badiou, l'insurrection qui vient, etc., cet élément méthodologique, méfiez-vous de vos amis et profitez de vos ennemis. C'est-à-dire, on a plus à tirer pour notre construction intellectuelle d'adversaires politiques, philosophiques, qui ont une consistance, que de gens qui sont proches de nous, mais qui nous ramènent sans arrêt dans nos évidences. Donc pour réfléchir, il vaut mieux un mec de droite comme Rosset, consistant, que énormément de gens de gauche qui nous ramènent à des choses, habituelles, nous remettre dans nos évidences, dans nos rails, bon, si on veut un peu se déplacer, réfléchir.
Coluche, à son époque, avec le tragique et l'utopique, jusqu'à sa parodie, avec le grand rire, et proche pareil, qu'on aurait pu s'en servir comme matériau.
Oui, il y a chez certains humoristes, c'est vrai, ça pourrait nous dire, Coluche, des proches, c'est encore plus travaillé encore. Mais par exemple, j'étais étonné de ça, j'ai vu un spectacle fait à partir des sketchs de Fernand Reynaud par un acteur.
Jean Rochefort.
Ouais. Et alors, Jean Rochefort, parce que moi je voyais Fernand Reynaud quand j'étais môme, donc sa dimension tragique, etc., ne me paraissait pas. Il y avait le côté franchouillard, etc. Bon. Et par Jean Rochefort, les mêmes sketchs, sans changer rien, ça prenait une tonalité, la question du non-sens, du tragique, etc., qui était étonnant. Et là, on voyait chez Fernand Reynaud quelque chose d'étonnant. Donc il y a, chez certains humoristes, une façon de oui, avec l'humour, le rire, etc., de travailler cette chose-là, enfin, je pense.
C'est une forme de distance par rapport à l'idéologie aussi.
Oui, ça dépend ce qu'on appelle l'idéologie. Il ne faut pas que la lucidité ne doit pas nous conduire à nous raconter des histoires. C'est-à-dire, si je mets dans l'idéologie tout ce qui ne va pas, et que je le renferme dans un grand sac, je me raconte des histoires. Parce qu'après, je vais dire, regardez comme je suis libre, moi qui suis hors de l'idéologie, regardez ce truc un peu terrible, on appelle ça l'idéologie. J'ai mis tout le mal dedans, et je l'ai enfermé avec un grand sac, et je l'ai mis à la poubelle, bon, et c'est bon. Et alors, regardez, moi je suis un homme libre, il y a l'idéologie là, ça y est, j'ai enlevé tout ce qui est mauvais. Alors là, ça serait encore une nouvelle histoire, hein, parce que c'est l'histoire, c'est l'autre conte de Noël, c'est le conte de Noël de la neutralité politique, de l'idéologie c'est le mal, etc., etc. Donc c'est une autre histoire. Alors que la confrontation, elle est en soi, et donc aussi avec ce qu'on appelle l'idéologie, etc., parce qu'elle se fait avec des idées, par exemple, donc des idées dont on est conscient, des idées dont on est moins conscient. Je ne dirais pas l'idéologie, parce que l'idéologie, c'est trop. Ça valorise, disons, la force individuelle par rapport à ce qui serait méchant et collectif, qui serait l'idéologie. Mais je pense qu'on a des capacités propres à se raconter des histoires sur soi et sur ses rapports avec les autres, aussi importantes que l'idéologie communiste au sens stalinien a été capable de raconter des histoires. D'ailleurs, si ça a marché, c'est parce que ça rencontrait chez les gens des capacités à se raconter des histoires. Et donc, si on met trop à l'extérieur de soi le problème, alors qu'on le génère sans arrêt le problème nous-mêmes, je pense qu'on loupe.
Cependant, le milieu social, il est difficile, peut-être on analyse pertinent, peut-être, il est difficile de répondre à certains ouvriers de Molex, à certains France Télécom, dans les peut-être.
Sur la voie qui tombe. Ben, il y a deux problèmes. Il y a le problème dans l'urgence. Il y a, voilà, hop, il y a une lutte, quelque chose, il y a une lutte d'urgence. Mais je ne suis pas sûr que les réponses qui ont été apportées sont des réponses. Une réponse qui a été apportée dans l'urgence. La réponse du gouvernement, la réponse des partis de gauche classiques, la réponse de la gauche radicale. Aucune réponse n'a vraiment répondu à l'urgence. En même temps, il y a eu des éléments de réponse, parce que le fait même d'avoir... ça s'inscrit dans une lutte, ça a transformé un peu les gens, donc ils ne sont plus exactement pareils. Donc ils se sont transformés eux-mêmes, et ils ont, souvent dans des luttes comme ça, dans des luttes sociales intenses, on se transforme et on transforme sa vision du monde beaucoup plus rapidement que des fois ce qu'on se transforme plusieurs années, bon, quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est pas complètement perdu. Mais disons que il me semble pas qu'il y ait. Dans l'urgence, il y a des réponses qui sont urgentes, mais c'est ça les tragiques aussi. C'est qu'elles sont nécessairement dans l'urgence et elles ne répondent pas complètement. Et elles ne nous permettent pas de répondre au. De complètement saisir toutes les antinomies. Par exemple, je prends. Si on répond aujourd'hui aux gens dans l'industrie automobile, qu'on a tendance à dégraisser, on répond il faut sauver des emplois. Et qu'en même temps, on dit il faut sauver la planète avec le changement climatique, donc on répond tout en même temps. Bon, évidemment, on répond tout, mais évidemment, il faut admettre que c'est contradictoire. Alors évidemment, c'est là où ça ressemble à ce qu'on appelle l'idéologie. Les gens qui sont des porte-parole politiques, en général, leur travail, c'est de lisser les choses pour donner l'impression que c'est pas contradictoire. Donc on rabote, quoi. Et on dit, bah, tout ça, ça va ensemble. Bon. Mais on sait bien que ça va pas ensemble. Et donc il y a des temporalités différentes, ça fait partie aussi du tragique et de l'utopique, les temporalités différentes. Donc, ce type de réponse, c'est un problème, c'est un petit déplacement de sa vision du monde, mais ça ne résout pas les problèmes. C'est une façon de se déplacer dans la façon de se confronter au problème. Et donc peut-être de trouver peut-être des éléments de réponse qui sont un peu différents, ou d'aménager les éléments de réponse différents, mais ça ne c'est pas. Évidemment, c'est pas. Ça appelle le même niveau, évidemment, que. Si quelqu'un vous dit. Ne t'inquiète pas pour ça, tout ça sera récupéré au paradis. Bon, voilà une réponse. Alors là, c'est plus simple et ça quand même. Ça rassure davantage. La réponse de celui qui dit « no future, ça n'a aucun sens, tout ça, vous êtes tous des abrutis, le monde est un élément absurde, etc. etc. » Ça donne une certaine réponse. En général, c'est une réponse qui plaît dans une période adolescente et légèrement post-adolescente. Surtout pour faire chier ses parents. Alors après, alors c'est l'époque où les gens lisent un peu Nietzsche ou Sioran. Autrement, la réponse type ancienne gauche, le programme, etc., tout rentre. Alors évidemment, là, ça rassure, hein, on a les réponses. Bon. On a les réponses. Mais il faut se méfier. Les nouveaux font pareil. Hein. Par exemple, moi, je suis en train de finir un texte de discussion critique approfondie que j'ai refait relire à des penseurs de ce courant de la décroissance. Bon. Donc je me pose des questions comme ça, dans un dialogue. Il y a dans ce courant qui est nouveau, des croissances qui est un peu à la mode, un nouveau conte de Noël, c'est-à-dire les gens qui expliquent qu'ils ont la solution. Ils ont la solution, ils savent, en fait, d'une certaine façon. Ça ressemble beaucoup au communisme, d'une certaine façon, dans la façon de répondre. Pas dans le contenu, mais dans la façon de répondre, ça ressemble. Encore un nouveau truc comme ça. Bon. Et donc et puis, c'est pour ça que c'est pas que les anciens un truc, c'est que les nouveaux trucs qui surgissent souvent de la même manière, enfin d'une manière assez analogue. Bon. Puis ça c'est le dernier truc qui marche, mais bon, on a la capacité à inventer d'autres choses de ce type. Quoi.